Cette chronique en droit du travail vous est présentée par Coderre Avocat, vos alliés juridiques en relations de travail et en gestion des ressources humaines. Visitez coderreavocat.com.
Au 1047 Outaouais.
Vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Louis-Philippe Brûlé,
votre point de repère.
OK, chronique en droit du travail. On va parler de syndicalisation cette semaine avec Maître Philippe Coderre, qu'on va tout de suite aller retrouver. Salut Philippe.
Salut LP.
On apprenait la semaine passée que les employés de la Banque Laurentienne ont choisi de se désyndicaliser. C'est quand même rare qu'on voit ça.
Ben moi, je le vois pas souvent dans ma pratique. Et évidemment, moi, quand je représente des employeurs où il y a des syndicats, là, normalement, les seuls changements qu'on va voir, c'est des changements d'interlocuteurs. Donc, par exemple, il va y avoir des nouveaux présidents, etc. Mais de changer le syndicat, moi, dans ma pratique, je ne l'ai pas vu souvent. Il y a quand même pas mal de jurisprudence là-dessus. Donc, il y en a eu des cas, mais c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ouais. Ça, c'est certain. C'est assez complexe.
Je me rappelle de commerces là, qui ont fermé pendant, mettons, un an, puis ça a cassé le syndicat. Mais des employés qui décident eux-mêmes là, de renoncer à la syndicalisation, c'est plus rare. Comment ça fonctionne? Là? Les employés peuvent pas non plus se lever un bon matin et décider de mettre fin au syndicat?
Non, effectivement. Il y a deux façons que ça se produit. Des fois, on va parler de maraudage, c'est-à-dire que les employés sont insatisfaits de leur syndicat et un autre syndicat va essayer d'entrer à la place du syndicat en place. Donc, ça, c'est une des façons. Puis l'autre façon, c'est par requête en révocation, comme on a vu à la Banque Laurentienne. Il y a des périodes fixes pour faire ça. C'est important de comprendre ça. Par exemple, les employés peuvent pas se lever un matin puis dire là, on va tasser notre syndicat. Normalement, là, les périodes fixes, c'est 90 jours, entre le 90e et le 60e jour avant l'expiration de la convention collective. Ou si tu as un syndicat qui est nouvellement accrédité un an après l'accréditation, ou si ta convention collective vient d'expirer 9 mois après. Puis pourquoi c'est le même? C'est tout le temps sous le principe là, de la paix industrielle qu'on appelle. On ne voudrait pas qu'un employeur ne sache pas avec qui interagir. Donc, il y a des périodes bien précises où les gens peuvent demander la désyndicalisation, autant au fédéral qu'au provincial. Là, j'ai vérifié le fédéral, je suis moins familier, là, mais j'ai vérifié le fédéral, puis ça semble être des délais qui sont très similaires là, à ce qu'on voit au Québec.
OK. Il arrive quoi avec mes conditions de travail après une révocation?
Bien, les effets de la convention collective sont terminés. Le syndicat n'a plus le monopole de la représentation. Donc, on retombe à des contrats de travail dits individuels. Ce qui est important de noter, par contre, c'est que les griefs en cours qui ont déjà été déposés avant la révocation peuvent suivre leur cours. C'est-à-dire qu'un arbitre de grief va les entendre.
OK. Mais pour en fonction de l'ancienne convention collective, parce que la plainte avait été déposée sous l'ancienne convention, c'est ça?
Exact. Mais là, ça pose des problèmes des fois parce qu'on sait que dans les conventions collectives, des fois, il y a des droits d'ancienneté, des droits de supplantation. Ça n'existe pas en droit du travail individuel. Donc, qu'est-ce qui arrive si un grief a été déposé avant la révocation et qui est entendu après la révocation? Bien, souvent, il va y avoir une compensation monétaire parce que là, l'arbitre ne pourra pas dire à l'employeur, bon, ben tu vas respecter des droits de supplantation quand ces droits-là n'existent plus dans l'entreprise qui est rendu non syndiqué. C'est un peu complexe quand ça arrive.
Le syndicat avait déposé une plainte là, pour pratique interdite et dit que ça pourrait même avoir comme conséquence d'annuler la révocation. Est-ce que ça peut être le cas?
Oui, ça peut être le cas. Faut que la preuve soit faite. Ce qui est important de comprendre, c'est que même autant au fédéral qu'au provincial, un employeur ne peut pas s'ingérer dans les activités du syndicat. Puis par s'ingérer, on pense pas juste à de l'intimidation ou à inciter les employés à ne pas se syndicaliser. Il y a de l'interférence qui est sanctionnée. C'est-à-dire que si je finance le syndicat, si je place mes pions au sein de l'exécutif syndical afin d'avoir un meilleur rapport, chaque fois qu'il y a des éléments comme ça, quelqu'un peut déposer une plainte en pratique déloyale et l'employeur peut être condamné à payer des dommages et intérêts. Et dans le cas d'une révocation, la révocation pourrait être annulée ou un nouveau vote pourrait être ordonné parce qu'on juge qu'il y a eu de l'influence de l'employeur dans la démarche. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est ce qui est souligné ou invoqué par le syndicat ici.
Bon, des fois, c'est subtil, donc ça prend une enquête là, qui gratte quand même en profondeur là, pour voir exactement ce qui s'est passé dans l'entreprise avant que les employés renoncent au syndicat.
Exactement. Puis, si on disait que la révocation, les recours en révocation, moi, dans ma pratique, c'est quelque chose de plus rare, des plaintes en pratique déloyale, ça l'est un peu moins. Donc, ça, on en voit. Des fois, c'est pas fondé, mais la ligne est très mince entre un employeur qui s'ingère, qui essaie d'influencer les employés, et un employeur qui exerce son droit de gérance, son droit de direction. Donc, c'est pour ça que ça donne certains conflits de temps en temps.
Tu parlais des périodes de révocation tantôt. J'entends parfois du monde dire « Moi, je suis totalement insatisfait de mon syndicat. On paye trop. Finalement, on n'a pas le service qu'on espérait, etc., etc. » Est-ce qu'il y a un moyen, en dehors des périodes de révocation, si on juge là qu'il y a un cas de force majeure, mettons, de se débarrasser de son syndicat ou c'est impossible?
Non, il faut vraiment respecter les périodes qui sont prévues. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est enlever tout le pouvoir du syndicat. C'est-à-dire que si tout le monde se met ensemble et dise « on n'en veut plus de ce syndicat-là », ben une fois que la convention collective est expirée, vous avez juste à attendre 9 mois, ne pas accepter aucune convention collective essentiellement, puis vous allez pouvoir le faire tomber. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est démissionner donc démissionner de votre titre de membre du syndicat, donc pour être prêt une fois que vous allez tomber dans les périodes.
Parce que de notre titre de membre d'un syndicat, on peut faire ça?
Oui, parce que dans le fond, un syndicat, ce que ça couvre, ce sont des gens d'une unité d'accréditation, que ces gens-là soient membres ou pas. Et comment on va dire que le syndicat, ou comment qu'on va nommer un syndicat, c'est si parmi tous ces gens-là, il y a une majorité de membres. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Ce que vous pouvez faire, c'est démissionner de votre titre de membre. Donc, vous êtes encore couvert par le syndicat. Vous allez encore payer vos cotisations. Sauf que lorsqu'on va faire le décompte, s'il n'y a plus de membres du tout, ben là, le syndicat pourrait perdre son accréditation. C'est comme ça qu'on révoque l'accréditation.
Alors, si tu démissionnes comme membre, bon, évidemment, tu es encore couvert par la même convention collective. Comme tu disais, tu continues à payer tes cotisations. Dans la vraie vie, à ce moment-là, ça ne change rien, là.
Ben, ça change, oui, quelque chose. Parce que supposons que là, le syndicat est rendu avec 12 membres et qu'on n'est pas dans une période de révocation. Ben, les 12 membres, c'est eux qui votent pour la convention collective, c'est eux qui votent pour l'exercice du droit de grève. Donc, c'est ça que ça donne être membre, c'est que vous avez le droit de voter sur certaines choses. Alors oui, ça peut changer quelque chose. Faut quand même être très prudent avant de faire ça, là. Normalement, on attend les périodes, et normalement, comment un syndicat va être remplacé, c'est quand il y en a un autre qui veut prendre sa place. C'est rare qu'on passe d'une entreprise syndiquée à une entreprise non syndicale.
Sinon, Philippe, quelqu'un qui est vraiment insatisfait de son syndicat, puis mettons qu'on n'est pas en période où on peut changer, il y a quand même certains recours, je présume?
Oui, tout à fait, puis j'ai beaucoup d'appels à cet effet-là. Là. Donc, les syndicats ont le monopole de la représentation, mais ces grands pouvoirs-là, viennent avec des grandes responsabilités aussi. Puis une des responsabilités, eh bien, c'est de représenter adéquatement chacun de ses membres. Et quand quelqu'un, par exemple, veut déposer un grief parce qu'il a été congédié ou il vit du harcèlement et que le syndicat ne fait pas sa job ou qu'il fait une évaluation très sommaire du dossier sans plus, on peut déposer une plainte au tribunal administratif du travail et demander l'autorisation à aller en arbitrage avec l'avocat de son choix payé par le syndicat. Donc ça, c'est un recours qui est quand même exceptionnel.
Okay.
C'est pas dans... Le tribunal va regarder si... il y a de l'arbitraire, s'il y a de la mauvaise foi, s'il y a de la discrimination dans le dossier, parce que le syndicat n'est pas obligé de déposer le grief. Mais il doit faire un examen quand même raisonnable de la situation.
Oui. As-tu déjà joué ce rôle-là comme avocat, toi?
Ah, souvent. Donc, ça, c'est des dossiers qu'on a beaucoup. Souvent, ça va même se régler hors cours. Là. Je te dirais, dans ma pratique, à moi, ça se règle souvent hors cours pour la simple et bonne raison que, supposons que l'employé conteste un congédiement, le syndicat ne dépose pas de grief, il m'appelle, on s'en va au tribunal administratif du travail pour aller en arbitrage. Bien, l'employeur ne veut pas plus qu'on gagne notre cause, nous, parce qu'il a quand même posé le geste de congédier initialement. Alors, souvent, ça va se solder en règlement hors cours, ce type de dossier-là. Mais oui, ça existe. Ça existe, puis ça, c'est très, très, très fréquent.
Ouais, ça devient un triangle, pas un triangle amoureux, on s'entend, là.
Exactement. Puis ce que je dis aux clients, par contre, c'est qu'il faut faire attention. Tu sais, quand on décide d'y aller de l'avant avec ces plaintes-là, on regarde vraiment de façon objective la situation. Parce que pour certains salariés, dès qu'un syndicat leur dit non, eh bien, ils veulent déposer ce type de plainte-là. Oui, c'est vraiment un recours qui est exceptionnel.
Puis des fois, le syndicat a raison de dire non aussi, là. Faut être honnête, là.
Oui. Ben oui. Exact. Puis il y a une question de coût aussi, là. T'sais, ils peuvent pas aller en arbitrage pour chacun des dossiers.
On choisit nos batailles, comme on dit. Il y a toujours aussi, dans le pire des cas, des poursuites civiles qui sont possibles également, Philippe.
Oui. Ça, c'est vraiment à l'intérieur même du syndicat. Donc, ça ne touche pas la convention collective, ça touche pas vos conditions de travail. Le syndicat fait de la diffamation contre vous. Le syndicat ne respecte pas ses propres règles internes, là, sa propre constitution dans la façon, par exemple, de faire les assemblées, etc., etc. Ça, on s'en va au civil contre le syndicat à ce moment-là. Alors, c'est pas mal les deux recours que les salariés ont contre leur syndicat, là, s'ils sont insatisfaits, ou attendre les fameuses fenêtres d'ouverture pour demander la révocation.
Philippe, ce fut très instructif et très intéressant. Merci beaucoup. Bonne soirée et on se reparle évidemment la semaine prochaine.
Exactement. Merci. Bye.
Salut.